Chapitre 75. La coque bleu marine du bateau retombe violemment sur les vagues et de l'eau écumante vient frapper la vitre de la cabine. Un des pare-battages remonté se détache et roule sur le pont mouillé. « Tiens-moi ça !» dit le capitaine Ajuna en lui désignant la barre à roue et il quitte la cabine. L'étrave du bateau 311, du corps des gardes-côtes, se dresse encore davantage avant que le bateau se mette à planer et que la vitesse augmente. À travers le pare-brise strié, Juna voit le capitaine avancer sur le pont avant, attraper le pare-battage et le rattacher avec un nœud de cabestan. Il vacille lorsque l'étrave heurte une grosse vague et qu'un paquet de mer passe par-dessus le bastingage, mais il parvient à retrouver son équilibre, s'étire, revient dans la cabine et reprend la barre. Le capitaine porte une longue tresse, il a des tatouages jusqu'au bout des doigts et du col noir autour des yeux. Les hommes d'équipage, qui semblent adorer le voir jouer au capitaine Sparrow, l'appellent Jack. « Il arrive à monter jusqu'à 35 nœuds ?» demande Juna. « Si je lui enfonce les éperons dans les flancs, oui, » répond Jack, et un large sourire dévoile ses canines pointues. Il retrouve son sérieux et pousse encore davantage le moteur. Un de ses hommes applaudit et émet un sifflement strident. « Jack !» lance un homme musclé qui est en train de nettoyer son pistolet. « Fais gaffe aux gardes-côtes, si tu continues à foncer comme ça. »« C'est des vrais durs, il paraît, » répond le capitaine. « Pas autant que nous, » répondent les autres en chœur. Juna sourit et contemple la mer agitée. Le vent fort pourchasse des nuages noirs dans le ciel. Les téléphones d'Oscar von Krutz et de Caroline sont éteints, mais Anya a trouvé un dernier post de Caroline sur Instagram, un selfie sur lequel elle paraît toute boudeuse avec le commentaire « Quality time ». Sur la photo, elle s'appuie contre un empilement de palettes grises. Derrière elle, on voit un panneau de tôle rouge de l'Administration nationale des transports donnant des informations sur les départs du port de Stavsnes. Anya n'a pas tardé à découvrir que le demi-frère d'Oscar possède une petite maison sur une île dans la partie extérieure de l'archipel de Stockholm, presque en ligne droite à partir de Stavsnes. « J'ai compris que c'est un honneur de pouvoir te rendre service », dit le capitaine avec un bref regard à Juna. Les moteurs diesel qui tournent à plein régime font vibrer le sol sous leurs pieds. Le bateau décrit un virage serré autour de quelques écueils pointus, se retrouve sur la même ligne que les crêtes des vagues et se met à rouler dans la grosse mer. De l'eau inonde le pont et s'évacue par les dalots. Le capitaine montre à travers le pare-brise une île gris-noire qui apparaît comme une masse plus compacte dans l'obscurité.
Bellerun n'est pas n'importe quelle île parmi les dizaines de milliers par ici. Après que Bruno Lilleforce, le peintre, tu sais, l'a vendu au roi des allumettes, à savoir le milliardaire Kruger, des gens prestigieux ont été invités ici. Zara Leander, Errol Flynn, Charlie Chaplin. Sur ce petit caillou de rien du tout. Y a que des rochers, on la traverse en une demi-heure. Je me demande ce qu'ils pouvaient bien y fabriquer, dit Jack en hochant la tête d'un air coquin. Ils approchent rapidement et le capitaine diminue la vitesse. Un des hommes va mettre en place les pare-battages côté tribord, se tenant jambes écartées pour ne pas chanceler. Aucune lumière n'est visible sur l'île. Les vagues fouettent de leur écume des rochers escarpés et quelques arbres malmenés plient sous le vent.
« Qu'est-ce que nous sommes censés trouver ici, au juste ?» veut savoir le capitaine.
« Je cherche un homme que je dois interroger. » Ils entrent dans le port de plaisance, à l'endroit où le ferry accoste habituellement. Le capitaine enclenche la marche arrière, mais racle quand même le bord avant que le bateau se glisse le long du quai.
« Cet homme, il est dangereux ?»«
Il a probablement peur, » répond Juna. Et il sort sur le pont pendant que l'équipage amarre le bateau.
« Tu veux que je t'accompagne ?» demande Jack.
« Oui, et emporte ton pistolet. » Les deux hommes sautent à terre. Jack attache la ceinture du holster autour de ses hanches pendant qu'il progresse sur les dalles glissantes. Il fait beaucoup plus sombre sur l'île. La nuit est plus avancée ici que sur l'eau. Les vagues s'écrasent contre les rochers et les mouettes poussent leurs cris plaintifs. La maison solitaire, qui au départ était une simple maisonnette de pêcheurs,
est situé dans une baie au sud, un peu à l'écart des autres bâtiments. Contre le ciel nocturne, la façade semble noire tout d'abord, comme du sang coagulé, mais plus il s'approche, mieux il distingue une maison en bois rouge qui jouxte un hangar à bateaux sur pilotis surplombant la mer agitée. Le vent malmène les vêtements de Juna quand il s'arrête pour vérifier son arme. La maison est barricadée comme en vue d'un ouragan. Des planches sont clouées devant les portes et les fenêtres. Juna et le capitaine s'approchent de la construction. De l'herbe pousse dans les gouttières. Les groseilliers à maquereaux vibrent sous les assauts du vent. Des bouées oranges et une ancre flottante sont posées près des fondations. À l'arrière se trouve une vieille structure qui ressemble à une cage de football avec des crochets rouillés le long des montants. « Il n'y a personne, » dit Jack. « On va voir, » répond Juna à voix basse. Il se dit qu'Oscar et sa copine ont très bien pu venir ici avec un bateau qu'ils ont ensuite enfermé dans le hangar, comme dans un garage. L'entrée donnant sur l'eau est peut-être la seule qui ne soit pas condamnée. Juna passe par le rocher glissant à côté du hangar pour descendre, colle son visage contre une fente entre les planches inférieures du mur et essaie de voir quelque chose à l'intérieur. Petit à petit se matérialise une surface d'eau qui clapote doucement. Le ciel se reflète sur les vaguelettes par les interstices du bois grisâtre des parois. « Il n'y a pas de bateau là-dedans, » constate Juna, et il revient sur ses pas. Il longe un stock de bûches de bouleau méticuleusement empilées, voit la hache profondément plantée dans le billot et de gros éclats de bois sur le sol. Il s'arrête en arrivant devant ce qui doit être un atelier de menuiserie. Les crevasses devant la porte sont remplies de sueur. Juna fait signe à Jack d'attendre, s'approche prudemment de la remise, ouvre la porte et entre. Des outils sont soigneusement accrochés au mur, un établi avec une scie à main occupe une partie du sol, à côté de chevalets entassés les uns sur les autres. « Je pense qu'ils sont ici, » déclare Juna, et il s'empare d'un pied de biche sur le mur. « Où ça ?»« Dans la maison. » »« On dirait pas pourtant. » Il a barricadé les portes et les fenêtres, il n'y a pas très longtemps. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Le vent souffle d'ouest depuis 2-3 jours. Oscar a scié ses planches ici avant de les porter à la maison. La plus grande partie de la sciure est partie avec le vent, mais pas celle qui se trouvait à l'abri, ici dans les crevasses. « Oui, bon, » dit Jack, « t'as raison, mais toutes les entrées sont clouées de dehors. Il ne peut y avoir personne à l'intérieur, à moins qu'ils aient reçu de l'aide de quelqu'un d'autre. » Il retourne à la maison et l'examine de nouveau. De la sciure est tombée sur une toile d'araignée sous une fenêtre obstruée. Juna tire sur les planches, va à la fenêtre suivante, tourne à l'angle, s'arrête devant la porte de la cuisine et remarque qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Les planches qui l'obstruent ne servent à rien. Il appuie sur la poignée et tente de pousser la porte. De toute évidence, elle a été bloquée de l'intérieur. Oscar et Caroline ont condamné toutes les portes et fenêtres de l'extérieur pour donner l'illusion d'une maison complètement barricadée, puis ils s'y sont glissés par la porte de la cuisine, qu'ils ont ensuite clouée de l'intérieur.